J'ai rendez-vous avec vous, une émission de la communauté des radios publiques de langue française.
Une moustache, une guitare, voici l'enfant terrible de la chanson, Georges Brassens.
J'ai quand même l'impression de bien ressembler à mes chansons. Je crois, oui. Je ne suis pas tout à fait l'ours qu'on annonce à l'affiche, évidemment, mais il y a quand même un peu de vrai là-dedans.
Une émission proposée par Fabienne Chauvière, réalisée par Marie-Annick Rimbaud.
Poète, prends ton luth, Georges Brassens, ramassez votre guitare, c'est à vous.
Une idée me vient comme ça qui me tombe du ciel. Enfin, peut-être pas le si haut, mais enfin qui me tombe de quelque part. Un truc m'arrive comme les braves gens n'aiment pas que l'on suive une autre route que à la suite d'une réflexion sur laquelle je n'ai aucun contrôle. Une partie se passe dans l'inconscient quand même. Des choses se font un petit peu à votre insu, enfin, des choses cheminent toutes seules en vous, puis arrivent à prendre à la suite d'une conversation, d'une lecture, d'une rencontre.
Georges Brassens est né à Sète en octobre 1921. En 1940, il choisit Paris. Et c'est à Paris que Georges est devenu Brassens, que le mythe Brassens est né. Qui était cet homme à la fois si bourru et si humain, si timide et si direct ? Comment était Georges Brassens, côté scène, côté public et côté jardin, chez lui avec ses amis ? Jusqu'où allait son amour pour la poésie ? Que savait-il de la musique ? Et comment a-t-il écrit ces textes merveilleux qui sont devenus des classiques ? C'est ce que je vous propose de découvrir au cours des 10 épisodes qui vont suivre à travers des témoignages d'aujourd'hui et des trésors, des raretés, découverts dans les archives sonores de nos radios. Pour ce premier numéro, c'est Raymond Devos qui nous parle de l'écriture de son ami Georges Brassens.
Monseigneur l'astre solaire, comme je n'admire pas beaucoup, m'enlève son feu, oui, mette son feu, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La lumière que je préfère, c'est celle de vos yeux jaloux. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Monsieur mon propriétaire, comme je lui dévaste tout, chasse de son toit, oui mais de son toit, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La demeure que je préfère, c'est votre robe à froufrou. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Madame ma gargotière, comme je lui dois trop de sous, chasse de sa table, oui mais de sa table, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. Le menu que je préfère, c'est la chair de votre cou. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous. Sa majesté financière, comme je ne fais rien à son goût, garde son or, hors de son or, moi je m'en fous, j'ai rendez-vous avec vous. La fortune que je préfère, c'est votre cœur d'amadou. Tout le reste en m'indiffère, j'ai rendez-vous avec vous.
Brassens écrivait merveilleusement bien, mais on était étonnés, moi j'ai toujours été étonné et comment dirais-je, fasciné par son travail.
Raymond Devos.
Parce qu'il faisait, c'était la perfection, c'est ça qu'il faut dire. C'est-à-dire, quand il écrivait une chanson, c'était exemplaire. C'est exactement ce qu'il fallait faire, dire, ni plus, ni moins. Hein, c'était vraiment, c'était un classique, enfin, finalement c'est un classique. Et moi, j'étais très sensible à ça. Je voyais bien les mots qu'il employait, je voyais comment les rimes tombaient, et je disais que c'est un maître. Alors j'étais en admiration pour lui, et ce qui devait lui plaire, c'était cette espèce de jeu avec les mots. Je ne dis pas de jeu de mots, des jeux, je crois que c'est ce qu'il devait penser, ce sont des jeux d'esprit, hein, les jeux de mots. Les mots sont faits pour alimenter les choses, hein, pour raconter, mais c'est des mots d'esprit. C'est une chimie qui se fait dans la tête. Enfin, ça vient ou ça vient pas. Alors, je crois que chez lui, c'était comme ça. Je sais qu'il m'avait dit une ou deux fois quand il était en train de travailler et qu'il était dérangé par quelqu'un, il ne pouvait plus s'y remettre. C'est, il y avait quelque chose de cassé. Et lui, je pense qu'il ne pouvait écrire que lorsque son esprit s'amusait. Et c'est ça qui est cette, qui donne la saveur de ce que Georges a écrit. C'est que c'est un grand jeu tout le temps. Il joue avec les choses. Et puis la musique, alors là, évidemment. Bon, c'est tout d'un coup une espèce de danse comme ça qui se fait dans la tête, où on joue avec les mots. Quand on parle de jouer avec les mots, c'est les mots qui se mettent à apparaître. Alors évidemment, il faut une certaine excitation d'esprit. Hein, il faut s'y mettre. Hein, il faut faire des appels, si vous voulez. Mais où ça vient, ou ça vient pas. Si ça vient, c'est formidable. Mais n'importe quelle chose, n'importe quel objet, j'allais dire, bien fait, c'est pour ça que les artisans, lui, il se disait un artisan. Il faisait des objets. Il nous disait, moi, je fais des petites chansons, hein, et alors, lorsque j'en suis content, que c'est bien fait, comme un bel objet, alors, je le livre. Et puis, si les gens sont contents, alors moi aussi je suis. S'ils sont, ça leur plaît pas, ou qu'ils ont dit, ça m'est un peu égal. Parce que moi j'ai la conscience tranquille. Hein, je dis ce que j'avais à dire, et je l'ai dit du mieux possible. C'est ça la grande humilité aussi de Georges. Hein.
Georges Brassens, 1960.
Il nous faut du temps, non pas pour faire les chansons, mais pour y penser.
Bien sûr.
Il faut dire que c'est la partie que je préfère. J'aime beaucoup, vous savez, les mijoter, les soigner comme un cuisinier qui prépare ses plats favoris.
Parlez-moi de la pluie et non pas du beau temps. Le beau temps me dégoûte et me fait grincer les dents. Le bel azur me met en rage, car le plus grand amour qui me fut donné sur terre, je le dois au mauvais temps, je le dois à Jupiter. Il me tomba d'un ciel d'orage. Par un soir de novembre, à cheval sur les toits, un vrai tonnerre de Brest avec des cris de putois, allumer ses feux d'artifice, bondissant de sa couche en costume de nuit, ma voisine affolée vint cogner à mon nuit en réclamant mes bons offices. Je suis seul et j'ai peur, ouvrez-moi par pitié, mon époux vient de partir faire son dur métier. Pauvre malheureux mercenaire, contraint de coucher dehors quand il fait mauvais temps, pour la bonne raison qu'il est représentant d'une maison de paratonnerre. En bénissant le nom de Benjamin Franklin, je l'ai mis en lieu sûr entre mes bras câlins. Et puis l'amour a fait le reste, toi qui sèmes des paratonnerres à foison, que n'en as-tu planté sur ta propre maison? Erreur on ne peut plus funeste. Quand Jupiter alla se faire entendre ailleurs, la belle ayant enfin conjuré sa frayeur, et recouvrer tout son courage, rentra dans ses foyers faire sécher son mari, en me donnant rendez-vous les jours d'intempéries, rendez-vous au prochain orage. À partir de ce jour, je n'ai plus baissé les yeux, j'ai consacré mon temps à contempler les cieux, à regarder passer les nuées, à guetter les stratus, à lorgner les nimbus, à faire les yeux doux au moindre cumulus. Mais elle n'est pas revenue. Son bonhomme de mari avait tant fait l'affaire, tant vendu ce soir-là de petits bouts de fer, qu'il était devenu millionnaire et l'avait emmené vers des cieux toujours bleus, des pays imbéciles où jamais il ne pleut, où l'on ne sait rien du tonnerre. Dieu fasse que ma complainte aille tambour battant, lui parler de la pluie, lui parler du gros temps auquel on a tenu tête ensemble, lui compter qu'un certain coup de foudre assassin dans le mille de mon cœur a laissé le dessin d'une petite fleur qui lui ressemble.
L'écriture de Brassens,
c'est l'écriture d'un véritable homme de lettres.
André Tilleux, écrivain, un ami de Belgique, de Georges Brassens.
C'est pas un parolier, c'est un poète, c'est un type qui a un patrimoine littéraire derrière lui qui est assez extraordinaire. Et malgré tout, il y a sa personnalité, il y a surtout sa personnalité, parce que il écrit avec désinvolture, je dirais, mais sur des sujets sérieux. Et c'est des sujets qui sont la fuite du temps, l'amour, l'amitié, la liberté, la tolérance, des trucs pareils. Mais il le fait avec une apparence de détachement, alors qu'en réalité, il y tient beaucoup.
De l'extérieur, on juge mieux un être que lui-même ne se juge. Vous savez, moi, j'écris sans, comme je vis, sans tellement revenir en arrière, sans tellement faire le point. Je ne tiens pas tellement à m'analyser. Il y en a les raisons qui me font chanter tel ou traiter tel ou tel sujet, dire parler de la mort, parler de la vie, parler de l'amour, parler de la chose sociale. Je me laisse aller. Quand une idée me vient, je la note.
On peut parler de tout ce... toutes les formules et de toutes les locutions qu'il employait. Il sortait des temps, du fond des temps, il ressortait des formules archaïques. D'ailleurs, vous verrez ça dans les dictionnaires des expressions toutes faites, vous trouverez ça chez Robert, chez Dunton et tout ça, les expressions dont il raffolait. Il aimait bien une expression de la passer, de la consulter par la bouche avant de la sortir. Il aimait les mots pour ce qu'ils avaient de charnel. Par exemple, il y a un mot qu'on emploie en Belgique, qui veut dire colifiché, qui veut dire calambredaine, et qui est carabistouille. Eh bien, Georges me disait, c'est dommage que ça soit pas français, parce que le mot est beau. Il trouvait que charnellement, ce mot lui convenait. Mais il y en a des tas d'autres. S'il a beaucoup chanté la mort, par exemple, c'est parce que le vocabulaire de la mort est particulièrement riche. Fossoyeur, c'est beau. Croque-mort, c'est beau. Tout ça. Et il était fasciné. Brassens, c'était un homme de mots. C'était un musicien, et dans les mots, il y avait une musique. Et l'important pour lui, c'était que les notes rejoignent la musique des mots.
Georges Brassens, 1964.
En réalité, sous le rapport de la forme, j'ai d'abord été traditionnaliste et j'en ai pris un peu à mon aise avec certaines traditions, certaines lois de l'art poétique, parce que à mes débuts, j'essayais d'écrire dans une métrique assez traditionnaliste.
Dieu sait que je n'ai pas le fond méchant, je ne souhaite jamais la mort des gens. Mais si l'on ne mourait plus, je crèverais de faim sur mon talus. Je suis un pauvre fossoyeur. Les vivants croient que je n'ai pas de remords à gagner mon pain sur le dos des morts. Mais ça me tracasse d'ailleurs, je les enterre à contre-cœur. Je suis un pauvre fossoyeur. Et plus je lâche la bride à mon émoi, et plus les copains s'amusent de moi. Ils me disent, mon vieux, par moments, t'as une figure d'enterrement. Je suis un pauvre fossoyeur. J'ai beau me dire que rien n'est éternel, je peux pas trouver ça tout naturel. Et jamais je ne parviens à prendre la mort comme elle vient. Je suis un pauvre fossoyeur. Ni vu ni connu, brave mort, adieu. Si du fond de la terre on voit le bon Dieu, dis-lui le mal que m'a coûté la dernière pelletée. Je suis un pauvre fossoyeur. Je suis un pauvre fossoyeur.
Georges Brassens, 1968.
Puis ensuite, comme j'ai écrit des chansons, j'ai pensé que je pouvais en prendre à mon aise, avec les muets quand il le fallait. Vous voyez, puis les muets, les Élysions, ajoute à la chanson quelque chose de familier, voyez, enlève un côté un peu solennel, ça fait plus direct. Et puis c'est dans les chansons traditionnelles, les chansons dites du folklore, qui sans doute n'ont pas été faites par le peuple, mais qui ont été remaniées par lui, on prend justement des tas de liberté, des tas de licence. Alors j'ai fait pareil, j'ai mélangé, si vous voulez, l'art traditionnel avec une certaine liberté. Mais vous savez, d'autres poètes avant moi l'avaient fait, sans parler des surréalistes. Avant, du temps même des symbolistes, il y avait des gens qui écrivaient quand même sans tenir compte de la versification traditionnelle. J'essaie de retrouver la forme populaire et quasi folklorique, mais je le fais quand même, malgré tout, avec une certaine mesure, en y allant assez doucement. Et j'essaie quand même que le vers qui précède et le vers qui suit soit traditionnaliste. Mais mettre par exemple un enjambement un peu audacieux après un vers solennel, justement, donne quelque chose de familier, quelque chose de gai, vous voyez, quelque chose, bien qu'on m'ait accusé d'être triste, il y a quelque chose de gai là-dedans, quelque chose de léger, d'un peu badin.
Louis-Jean Calvé, linguiste.
Et j'ai eu la chance de pouvoir fouiller quoi, dans les tiroirs de Brassens, dans la bibliothèque de Brassens, et tous ces livres sont annotés. Et on a l'impression que c'est un professeur de versification ou de métrique qui lui a fait un cours sur la versification. Or, Brassens a appris tout seul. Il souligne les rimes, il découvre les rimes croisées, les rimes embrassées, les rimes plates, enfin bon, c'est l'autodidacte total. Les musiques, il semblerait qu'elles venaient assez vite. Alors, une musique impliquait bien sûr un type de métrique. Il y a des musiques pour vers de 8 pieds, de 10 pieds, pour les alexandrins, ça dépend ce qu'ils faisaient. Et bien souvent, d'ailleurs, il devait composer en pensant à quelque chose d'autre, hein, un texte ou une chanson. Et ensuite, ces textes, en revanche, il y passait beaucoup de temps. Ça pouvait prendre 6 semaines, 6 mois, 3 ans parfois. Il changeait des mots, il allait puiser comme ça. Mais il les choisissait aussi à l'oreille. C'est-à-dire qu'il fallait le mot qu'il puisse bouger dans sa bouche, hein, qu'il puisse mâchouiller, recracher avec une musique.
Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Les gens foutres et les gens probes médisent du vent furibond qui rebrousse les bois, détrousse les toits, retrousse les robes. Les gens foutres et les gens probes, le vent, je vous en réponds, sans souci et c'est justice comme de colle un tampon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau. Bien sûr, si l'on ne se fonde que sur ce qui saute aux yeux, le vent semble une brute raffolant de nuire à tout le monde. Mais une attention profonde prouve que c'est chez les fâcheux qu'ils préfèrent choisir les victimes de ces petits jeux. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent fripon, prudence, prends garde à ton jupon. Si par hasard, sur le pont des arts, tu croises le vent marot, prudent, prends garde à ton chapeau.
Louis-Jean Calvé, linguiste.
C'est une écriture très classique, en sens. Il faut oublier l'aspect argotique, pseudo-argotique. Il faut oublier les gros mots, c'est périphérique, tout ça. Fondamentalement, c'est un poète classique. Et un poète classique qui raconte toujours des historiettes. C'est pour ça qu'on peut... On peut oser la comparaison avec La Fontaine, dire que c'est à La Fontaine d'aujourd'hui. Enfin, c'est toujours les petites historiettes, les petites fabulettes comme ça.
Raymond Devos.
On sent qu'il ne lâchait la chanson que lorsqu'elle était réussie. Un texte, tant qu'il n'est pas... Il faut qu'il soit terminé, il faut qu'il ait tout dit. Et il faut surtout qu'il y ait une moralité. C'est-à-dire, voilà pourquoi j'ai écrit ça. C'est important, ça. C'est presque une politesse. Et puis ça justifie... L'effort de faire quelque chose. C'est fascinant. Moi, je n'analysais pas les textes de Georges. Je les subissais merveilleusement. Je les comprenais. Georges partait toujours d'un fait réel, du quotidien.
Georges Brassens, 1962.
Parfois, c'est une idée qui me vient. Parfois, c'est une chanson presque toute faite. Parfois, ce n'est qu'un mot ou un vers dont au début je ne sais pas quoi faire, et puis qui petit à petit se développe. Parfois j'ai envie d'écrire, je n'ai envie de rien écrire, je suis là devant une feuille de papier, je cherche. Et brusquement quelque chose me traverse l'esprit, je le note, et j'essaie de jouer avec ça. Mais c'est plutôt, j'ai un carnet sur lequel je note toutes les impressions que je... toutes les images qui me viennent, toutes les impressions que je reçois, je note ça, et... quand je suis en difficulté, quand je suis en détresse, quand je m'ennuie un peu, je reprends ce carnet de notes et j'essaie de développer ces impressions.
Sans ces cheveux qui volent, j'aurai dorénavant des difficultés folles à voir d'où vient le vent. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Je me demande comme subsister sans ses joues, m'offrant de belles pommes nouvelles chaque jour. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Sans sa gorge, ma tête dépourvue de coussins reposerait par terre et rien n'est plus malsain. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Sans ses hanches solides, comment faire demain? Si je perds l'équilibre pour accrocher mes mains, tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Elle a mille autres choses précieuses encore, mais en spectacle j'ose pas donner tout son corps. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Des charmes de mamie, j'en passe, et des meilleurs. Vos cours d'anatomie, allez les prendre ailleurs. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. D'ailleurs, c'est sa faiblesse, elle tient à ses os et jamais ne se laisse récupérer en morceaux. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter. Elle est quelque peu fière et chatouilleuse assez, et l'on doit tout entière la prendre ou la laisser. Tout est bon chez elle, y a rien à jeter. Sur l'île déserte, il faut tout emporter.
C'est le carnet sur lequel il a écrit ses chansons. Mais avant d'être connu, vous voyez, il a déposé cette chanson-là le 3 octobre 1942.
Pierre Ontegnante, secrétaire et ami de Georges Brassens pendant 40 ans.
C'est une des premières chansons. Vous voyez, ce sont toutes ses premières chansons. Alors ben là, vous voyez, Le bon Dieu et swing, Souvenir d'un bon rêve, Je pleure. Oui, c'était très romantique. Ça, ce sont des chansons qu'il avait écrites avant d'aller en Allemagne. Vous voyez, J'ai rendez-vous avec vous, vous voyez. Il a écrit en 49, celle-là. Les amoureux qui écrivent sur les bancs publics en 47. Vous voyez, ce sont ses premiers manuscrits. Il avait même musique, bon pour la musique, vous voyez. Grand Dieu merci. Quand il avait fini ses chansons, enfin finalement, on était un peu organisés quand même, il me les écrivait au propre. pour que je puisse les faire éditer. Vous voyez ? Alors là, il me donnait ça. Tiens, d'ailleurs, tenez, vous avez là-bas, ça, c'est le dernier qu'il m'a fait. Pour Pierron Téniante, en cas de mort subite, tu pourras voir si ça intéresse des compositeurs, bien sûr, de faire mettre ça en musique. Beaucoup sont déjà faites, mais je n'ai pas eu le temps de les enregistrer. Il faudrait peut-être consulter quelques amateurs de mes chansons, Bertola, Battista, Tabé, Bestiou, et leur demander de trancher. J'espère toutefois que ça n'arrivera pas. Quant aux chanteurs qui voudraient bien chanter ça, je vous laisse à tous le soin d'en décider. Georges Brassens, oui, il m'avait laissé ça, oui, en juillet 80, oui, parce qu'il était déjà malade, il avait ses chansons qui étaient terminées, ou presque terminées, et il m'avait donné ça avec l'autorisation tacite de les faire publier.
Et quand il tombe amoureux fou, il n'y a pas de danger qu'il l'avoue, les effusions d'âme, il déteste. Selon lui, mettre en plein soleil, son cœur ou son cul, c'est pareil, c'est immodeste. Si tu n'as pas tout du Grimaud, si tu sais lire entre les mots, entre les faits, entre les gestes, lors tu verras clair dans son jeu, et que ce bel avantageux, c'est immodeste. Mais le modeste, c'est lui, quoi, c'est son portrait.
Les pays, c'est pas ça qui manque. On vient au monde à Salamanque, à Paris, Bordeaux, Lille, Brest. Lui, la nativité, le prix du côté des Saintes-Maries, c'est un modeste. Comme jadis a fait un roi, il serait bien fichu, je crois, de donner le trône et le reste contre un seul cheval camargué, bancal vieux borgne fatigué. C'est un modeste, suivi de son pain parasol, s'il fuit sans même toucher le sol, le moindre effort comme la peste. C'est qu'au chantier, ses bras d'Hercule rendraient les autres ridicules. C'est un modeste. À la pétanque, quand il perd, te fais pas de soucis, pépère. Si d'aventure il te conteste, s'il te boude, s'il te rudoie, au fond, il est content pour toi. C'est un modeste. Si quand un emmerdeur le met, t'en rogne, on ne le voit jamais lever sur l'homme une main leste. C'est qu'il juge pas nécessaire d'humilier un adversaire. C'est un modeste. Et quand il tombe amoureux fou, y a pas de danger qu'il l'avoue. Les effusions d'âme, il déteste. Selon lui, mettre en plein soleil son cœur ou son cul, c'est pareil. C'est un modeste. Quand on enterre un imbécile, de ses amis s'il raille, s'il a l'œil sec et ne manifeste aucun chagrin, t'y fit pas trop, sur la patate il en a gros. C'est un modeste. Et s'il te traite d'étranger, que tu sois de Naples, d'Angers, ou d'ailleurs, remets pas la veste. Lui, quand il t'adopte, pardi, il veut pas que ce soit le dit. C'est un modeste. Si tu n'as pas tout du Grimaud, si tu sais lire entre les mots, entre les faits, entre les gestes, lors tu verras clair dans son jeu, et que ce bel avantageux, c'est un modeste.
Pierre Ontenante.
C'est débrouillant, c'est débrouillé, les amis. Ils étaient comme ça, ils écrivaient n'importe quoi, ce qui lui passait par la tête. Vous voyez, de temps en temps, il soulignait quelque chose. Hein, quand mon ardeur virile, vous voyez, il a souligné ardeur virile parce que ça a dû lui trouver drôle. Hein, à contre-cœur, pour ne pas dire à contre-fesse. Pas un mot. Orphelin. Ah oui, bah, vous savez, ça c'est l'orphelin. Vous voyez, ça c'est la chanson L'orphelin. Sauf dans les cas fréquents, hélas, où ce sont de vrais dégueulasses, on ne devrait perdre jamais, jamais son père et sa mère. Mais en dehors du petit malin qui meurt avant d'être orphelin, et de l'infortuné bâtard, on les enterre tôt ou tard. Oui, là, vous voyez toutes les retouches qu'il faisait. Il écrivait d'un jet d'abord la première fois. Enfin, quelquefois, ça, c'était le résultat de 25 transformations, parce qu'il écrivait, il écrivait. Et puis, au fur et à mesure, il changeait. Il a recopié au fur et à mesure qu'elle avançait. Alors, vous voyez, là, elle était déjà très avancée, la chanson, mais il a encore modifié tout ce qu'il a écrit en rouge. Toujours sur les cahiers des colis, ça, c'était l'époque où il n'y avait pas de quoi se payer des beaux cahiers. Un décrottable pouilleux, un bécile renforcé, cabotin de la littérature besogneuse, bâton merdeux. Voilà. Il est fini. Il n'a jamais été terminé, celui-là.
Georges Brassens, 1962.
Je passe du temps sur toutes mes chansons. Je consacre à peu près 5 ou 6 heures par jour à ça. En fait, je produis beaucoup plus que je ne livre au public, vous voyez. Parce que je m'amuse aussi, j'aime assez ça. Alors ça me, c'est finalement le plus important de ma vie, ça. Alors il m'arrive de développer mes chansons, même dans un sens qui ne me semble pas être le bon, vous voyez. Mais je me laisse aller quand même, parce que je sais qu'après je reviendrai en arrière. Alors je développe la chanson, et je me dis, tiens, qu'est-ce que ça pourrait donner dans cette direction? J'avance un peu dans cette direction, et je fais une chanson très différente de celle que je livrerai au public, puis je reviens en arrière, je jette ça, je recommence. En fait, si vous voulez, j'aime beaucoup ça. J'arrive à trouver en moi des choses que je n'aurais pas soupçonnées, vous voyez, grâce à ce procédé. Vous savez, je suis comme un sculpteur qui aurait plein de bouts de bois dans son atelier, qui de temps en temps en façonnerait un, et puis le laisserait tomber quand il n'aurait plus rien à dire sur ce bout de bois, et en prendrait un autre. Je fais ça constamment.
Disco Parade 1964.
Elle n'a pas encore de plume, la flèche qui doit percer son flanc. Et dans son cœur, rien ne s'allume quand elle cède à ses galants. Elle se rit bien des gondoles, des fleurs bleues, des tendres discours, des Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour. Des Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour. N'allez pas croire davantage que le démon brûle son corps. Il s'arrête au premier étage, son septième ciel, et encore. Elle n'est jamais langoureuse, passer par le pont des soupirs, et voit comme des bêtes curieuses celles qui font l'amour par plaisir. Et voit comme des bêtes curieuses celles qui font l'amour par plaisir. Croyez pas qu'elle soit à vendre quand on l'a mise sur le dos. On n'est pas tenu de se fendre d'un somptueux petit cadeau. Avant d'aller en bacchanal, elle présente pas un devis. Elle n'a rien de ces belles vénales, celles qui font l'amour par profit. Elle n'a rien de ces belles vénales, celles qui font l'amour par profit. Mais alors, pourquoi cède-t-elle, sans cœur, sans lucre, sans plaisir? Si l'amour vaut pas la chandelle, pourquoi le joue-t-elle à loisir? Si
quiconque peut sans embâche les déras dégrafer sa robe. C'est parce qu'elle veut être à la page que c'est la mode et qu'elle est snob. C'est parce qu'elle veut être à la page que c'est la mode et qu'elle est snob. Mais change coutumes et filles, un jour peut-être en son sein nu, va se planter pour toute la vie une petite flèche perdue. On ne verra plus qu'elle en gondole, elle ira jouer à son tour les Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour. Les Vénus de la vieille école, celles qui font l'amour par amour.
On peut raboter une planche pendant très longtemps, et lui, c'était ce qu'il faisait sur sa guitare. Il rabotait les notes, les mots pendant des nuits entières.
Bernard Clavel, écrivain.
Mais s'il n'y a pas une âme de créateur derrière, c'est rien. Mais en plus de cet amour du travail, du geste, cette passion de l'outil, il y a ce qui vient des tripes, et ça ne s'apprend pas, on l'a en soi. Et je pense que Brassens n'aurait pas pu vivre sans écrire. C'est rien de savoir écrire bien. Tout le monde peut arriver à écrire bien, mais qu'est-ce qu'on met dedans? Je connais pas toutes les chansons qui ont été écrites depuis un siècle ou deux, mais je pense que celles de Brassens ont vraiment beaucoup de chances de rester, parce que ce sont de véritables poèmes et qu'on peut les lire. Moi, j'ai lu souvent des chansons de Brassens sans la musique. Elles sont très belles aussi. Hein. Et il avait cette espèce de passion du langage. Il aimait vraiment la littérature.
Georges Brassens, 1961.
Et j'ai toujours une émotion qui court à la recherche d'un mot, ou un mot qui court à la recherche d'une émotion. J'ai dû trouver certaines images que j'ai mises après dans la chanson. Par exemple, le point d'accro dans ta robe de mariée, les bouscules de leur socle, les bascules de leur socle bousculent leur vertu, arrachent leurs feuilles de vigne. J'ai trouvé ces images. J'avais dû en trouver une, supposons que j'ai trouvé un jour arracher sa feuille de vigne. C'est que j'ai trouvé une autre fois. N'as-tu jamais souhaité cet ange seul bandeau? J'ai dû trouver ça, je l'ai noté. Et puis, un beau jour, tout à fait par hasard, l'idée m'est venue de chanter l'histoire, la vie intérieure d'une femme qui attendait Ulysse de banlieue aussi, vous voyez. J'avais en somme, si vous voulez, toutes ces images un peu éparpillées dans mes carnets de notes. Et puis un beau jour, j'ai eu envie de chanter la vie intérieure d'une femme qui avait parfois envie de sortir de cette espèce de carcan. Et quand cette idée s'est ancrée en moi, parce que ça c'est difficile avant que j'ai envie d'écrire une chanson sur un sujet, il faut que le temps passe.
Toi l'épouse modèle, le grillon du foyer, toi qui n'as point d'accro dans ta robe de mariée, toi l'intraitable Pénélope, en suivant ton petit bonhomme de bonheur, ne berces-tu jamais en tout bien tout honneur de jolies pensées interlopes, de jolies pensées interlopes. Derrière tes rideaux, dans ton juste milieu, en attendant le retour d'un Ulysse de banlieue, penché sur tes travaux de toile, les soirs de vague à l'âme et de mélancolie, n'as-tu jamais en rêve au ciel d'un autre lit
compter de nouvelles étoiles, compter de nouvelles étoiles. N'as-tu jamais encore appelé de tes voeux l'amourette qui passe, qui vous prend aux cheveux, qui vous compte des bagatelles, qui met la marguerite au jardin potager, la pomme défendue aux branches du verger, et le désordre à vos dentelles, et le désordre à vos dentelles. N'as-tu jamais souhaité de revoir en chemin cet ange, ce démon qui son arc à la main décoche des flèches malignes, qui rend leur chair de femme au plus froid de statue, les bascule de leur socle, bouscule leur vertu, arrache leurs feuilles de vigne, arrache leurs feuilles de vigne. N'aie crainte que le ciel ne t'en tienne rigueur, il n'y a vraiment pas là de quoi fouetter un cœur qui bat la campagne et galope. C'est la faute commune et le péché véniel, c'est la face cachée de la lune de miel et la rançon de Pénélope. Et la rançon de Pénélope.
C'est pour dire que Georges, quand même, c'est un style. C'est pour ça qu'il a une telle envergure. Une façon de créer des images, de montrer, de raconter une histoire bien à lui.
Raymond Devos.
Vous savez comment il composait ses chansons, Georges. Il commençait, et ça m'a, quand il m'a dit ça, ça ne m'a pas surpris du tout. Il commençait par parler ses chansons avec un rythme de sous. Et petit à petit, ça, c'est les mots, les phrases, prenaient un rythme, comme ça, suivait un rythme, ça s'imposait, et la mélodie finissait par apparaître. J'allais dire qu'il ne la cherchait pas, elle finissait par apparaître. C'est pour ça que son texte collait parfaitement avec la musique, c'est qu'il commençait par parler sur de la musique. Hein, le jour du 14 juillet, alors ça commençait comme ça, le jour du 14 juillet, et ça rythmait derrière. Je reste dans mon lit douillet, la musique qui marche pas. Et tout d'un coup, ça prenait un rythme et il avait sa mélodie.
Georges Brassens, 1979.
Quand je débutais dans la chanson, les musiques venaient à peu près en même temps. Mais vous savez, parfois une chanson vient très vite. L'Auvergnat, par exemple, est venue très vite. Les Sabots d'Hélène, c'est une chanson qui m'a pris une demi-journée. Le Testament m'a pris un mois, Les Copains d'abord, ça m'a pris un mois. Parfois il faut deux jours, parfois il faut deux heures. J'avais l'air d'un con, Marinette. J'ai fait ça en une heure. Presque toutes mes chansons, vous savez, confinent à la préciosité. Jamais c'est ça, je dois dire. Il ne faut pas parler d'automobile dans mes chansons. Je ne peux pas vous dire pourquoi, mais il ne faut pas en parler.
C'est le corbillard et le charabeu.
Voilà. Il ne faut pas parler dans mes chansons de micro. Bien que j'en utilise, bien sûr. Ouais. On peut parler de phonographe à la rigueur dans mes chansons, vous voyez, ouais. Mais on ne peut pas parler de chaîne haute fidélité. Parce qu'on ne peut pas incorporer chaîne haute fidélité dans un verre. Enfin, dans un de mes verres. C'est ma conception, je ne dis pas qu'elle soit la bonne. Je ne mettrai sûrement pas IFI non plus, encore moins. Vous comprenez ce que je veux dire ? C'est une terminologie que je ne peux pas employer. Mais j'aime assez la chose scientifique et je regrette de n'avoir pas l'esprit assez vaste pour pouvoir, parallèlement à ce que je fais, m'y intéresser à ces choses-là. Mais je sens que j'ai le goût pour ça.
André Tilleux, écrivain.
Brassens a enrichi le vocabulaire de tous ceux qui l'ont écouté, déjà. Vous savez, il ne recherchait pas la difficulté, mais il avait le culte du mot juste et du mot ancien, quelquefois, qu'il essayait de réhabiliter. Il cherchait vraiment le mot qui appartenait au domaine français, au domaine de la, pas de la littérature nécessairement, Par exemple, une expression « mettre ses chaussettes à la fenêtre », c'était une expression qu'il aimait bien. Ça veut dire, je crois que c'était une dame qui n'était plus beaucoup honorée par son mari. On disait « elle a mis ses chaussettes à la fenêtre ». Il aimait bien ça, il aurait bien « attendez-moi sous l'orme ». Il aimait bien ça, c'est pas nouveau, ça, c'est ancien, mais ça vaut le coup d'être repris, parce que c'est imagé, parce que c'est concret.
Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Marquise, si mon visage a quelques traits un peu vieux, souvenez-vous qu'à mon âge, vous ne vaudrez guère mieux. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le temps aux plus belles choses se plaît à faire un affront et saura faner vos roses comme il a ridé mon front. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Le même cours des planètes règle nos jours et nos nuits. On m'a vu ce que vous êtes, vous serez ce que je suis. Peut-être que je serai vieille, répond Marquise cependant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant. J'ai 26 ans, mon vieux Corneille, et je t'emmerde en attendant.
La vérité est très simple. Dans la vie, je ne suis pas du tout un grossier personnage.
Georges Brassens, 1968.
Et je m'exprime dans une langue sinon châtiée, du moins à peu près expurgée, quoi. J'emploie deux, les trois gros mots courants que tout le monde emploie en se coinçant les doigts dans une porte ou en voyant un chauffeur qui vous passe devant le nez, quoi. À part ces expressions-là, les autres, je les ai un peu recherchées dans mes chansons. Mais il faut dire qu'il y a assez longtemps que je fais des chansons et à l'origine, je les ai faites pour amuser des copains. Et à 17-18 ans, cet âge-là, on a l'esprit de salle de garde et on s'amuse évidemment à choquer le bourgeois. Et moi, j'ai tellement pris l'habitude de faire ça que j'ai continué longtemps après. Et ça a fini par devenir une seconde nature, si vous voulez. En somme, quand je m'exprime devant mes amis, enfin dans la vie courante, dans la vie normale, je m'exprime à peu près correctement. Quand je viens en scène, quand je passe en scène, je deviens un peu grossier. Mais je pense quand même encore que maintenant je ne m'en défends plus, maintenant peu m'importe. Ceux qui savent, comme disait l'autre, me devinent. Ceux qui aiment mes chansons, si les gros mots les choquent, ils finissent par les oublier un peu. Puis à force de les dire, ces mots perdent quand même un peu, sont un peu désamorcés. Il me semble que maintenant, d'ailleurs, il me semble, en regardant la télévision, en allant au cinéma, il me semble n'être plus le seul maintenant à dire des gros mots, voyez. Je crois que maintenant le gros mot a perdu un peu de sa virulence, de sa violence. Et dans les trompettes de la renommée, si j'emploie pas de gros mots, je suis perdu. En réalité, j'ai employé quelques gros mots dans mes premières chansons. Et puis par la suite, quand on m'a un peu échauffé les oreilles avec cette histoire de gros mots, je me suis dit, je vais en faire d'autres pour embêter ceux à qui ça ne plaît pas. Et puis, comme j'ai été un des premiers à le faire sur une scène de music-hall, évidemment, on m'a tout de suite traité de pornographe, de grossier personnage, de type mal embouché. Mais enfin, vous savez, avec le temps, tout ça est fini. C'est une légende, ma grossièreté. Je suis capable de ne pas l'être, bien sûr.
Voici la ronde des jurons qui chantait clair, qui dansait rond. Quand les Gaulois de bonne aloi du franc-parler suivaient la loi, jurant par là, jurant par-ci, jurant à langue raccourcie, comme des grains de chapelet, les joyeux jurons défilaient. Les morts bleus, tous les ventres bleus,
Les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi parbleu que les jarnies bleues et les pâles sont bleus. Tous les cristis, les ventres saint-gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi pardis que les sapristis et les sacristis. Sans oublier les jarnicotons, les scrogneugneux et les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom, les pestes et pois, diantres, fiches, tréfoutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et saperlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnidieux et les passes, que Dieu, quelle pitié, les charretiers ont un langage châtillé. Les harengères et les mégères ne parlent plus à la légère. Le vieux catéchisme poissard n'a guère plus cours chez les hussards. Ils ont vécu des profondis, les joyeux jurons de jadis. Tous les morts bleus, tous les ventres bleus, les sacres bleus et les cornes gidouillent ainsi parbleu que les jarnies bleues et les pâles sont bleus. Tous les cristis, les ventres saint-gris, les parmabarbes et les noms d'une pipe ainsi pardis que les sapristis et les sacristis. Sans oublier les jarnicotons, les scrogneugneux et les bigrés, les bougres, les saperlottes, les crénons de nom, les pestes et pois, diantres, fiches, tréfoutres, tous les bons dieux, tous les vertus dieux, tonnerre de Brest et saperlipopette, ainsi par Dieu, que les jarnidieux et les passes, que Dieu.
On a eu la chance d'être dans un temps merveilleux où on était libre, où l'esprit était libre, où on faisait, on n'avait pas peur tellement, pas de se tromper dans les choses que l'on faisait, mais de ce que ça n'est pas de succès. Un artiste, c'est le public qui fait l'artiste, hein, qu'il accepte ou pas.
Dans cette émission, vous avez entendu, dans l'ordre, j'ai rendez-vous avec vous, le paratonnerre, le fossoyeur, le vent, rien à jeter, le modeste, Marjolaine, Pénélope, Marquise et la ronde des jurons. J'ai rendez-vous avec vous, une coproduction de la communauté des radios publiques de langue française, de Fabienne Chauvière, France Inter, Monique Giroux et Martine Jessop, Radio-Canada, Jacques Donzel, Radio Suisse Romande et Gérard Vallet, RTBF, une réalisation de Marianne Crimbaud. Avec Janine Marc-Peset et Rebecca de Nantes.
Merci Fabienne Chauvière pour cette première consacrée à Georges Brassens. Demain, deuxième épisode sur le thème de l'influence qu'a exercée la jeunesse sur Brassens. Et pour terminer l'heure, voici justement de jeunes poulains britanniques. Ce sont des roqueux, ils nous arrivent d'Oxford. False, c'est une nouveauté musicale sur France Inter. You got an albatross around your neck, around your neck. Got a 100 broken light bulbs above your head. Sunblind. You got an albatross around your neck, around your neck. rock britannique False, une nouveauté France Inter. À suivre Daniel Fivé et son bivouac, aujourd'hui le long de la Grande Muraille Verte au Sénégal et dans la jungle vénézuélienne.